Nous poursuivons aujourd'hui notre étude sur le survol des 66 livres de la Bible. Nous en sommes au livre de 2 Samuel. Nous avions regardé dans notre dernière leçon une introduction. Alors, on avait vu l'arrière-plan du livre et son but principal, le plan du livre, les thèmes majeurs, les personnages clés, les versets clés, les leçons pour le peuple de Dieu d'alors et aussi celui d'aujourd'hui, et la place et la présence de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va regarder les deux points suivants. Donc, le contenu des principales sections du livre et les leçons ou les applications que nous enseigne le livre. Je dois mentionner que pour préparer cette leçon, j'ai utilisé abondamment le livre du pasteur Garrett Crossley qui s'intitule « Survol de l'Ancien Testament » dans le tome 2, qui est publié par Europresse en 2004 et qui, au moment où je publie cette chose-là, s'est épuisé. Je l'ai abondamment utilisé pour la préparation de cette leçon à cause de sa pertinence et à cause du fait que c'est un réformé baptiste et aussi de la qualité de sa présentation du livre de 2 Samuel. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va regarder le contenu des principales sections. Alors, le deuxième livre de Samuel relate la vie de David avec ses victoires et ses problèmes. Aucun autre personnage biblique ne présente comme lui une telle variété d'expériences spirituelles. On va d'abord regarder le début de son règne, et à l'intérieur du livre, le début de son règne, c'est vraiment à partir du verset 1 du chapitre 1 jusqu'au verset 13 du chapitre 9. Alors, la nouvelle de la mort du roi Saül parvient à David et à ses hommes dans l'exil qu'ils ont librement choisi, à Tsilag, la ville philistine. Alors, le messager est un jeune Amalécite qui prétend avoir mis fin à la vie de Saül. Il espère visiblement une récompense, un signal de gratitude et les honneurs pour le geste qu'il affirme avoir commis. On voit cela dans le chapitre 4, au verset 10. Mais c'est sans compter sur l'esprit noble et craignant Dieu du jeune héros qui s'apprête à monter sur le trône d'Israël, qui est bien sûr le roi David. La mort de Saül et de Jonathan accable profondément David. Même si Saül a cherché constamment à le tuer et a failli réussir à plusieurs occasions, David le considérait comme loin de l'Éternel. Il n'aurait jamais levé le petit doigt contre lui. Il ne va certainement pas récompenser l'homme qui l'a fait. David fait mourir la Amalécite qui revendique la mort de Saül. En tant qu'Amalécite, il était voué à la destruction. On voit cette chose-là, cette indication du Seigneur dans Deutéronome, chapitre 25, les versets 17 à 19. Alors David, qui était le roi nouvellement oint, est chargé de faire exécuter la sentence. Au milieu des mines de Tsilag, David rend hommage à l'ennemi qui avait voulu attenter à sa vie et à l'ami qui avait été à ses côtés dans les moments d'adversité. Le roi a tout juste 30 ans, mais fait preuve d'une remarquable maturité. Les années de persécution et de harcèlement, les innombrables nuits d'insomnie, l'angoisse, la détresse, les déplacements sont tout d'un coup oubliés. il ne porte pas la moindre accusation contre le tempérament de Saül et il n'exprime aucun soulagement devant sa disparition, pas plus la plus petite note de joie de ce que son ennemi n'est plus. C'est même tout le contraire. Dans le mélange de son hommage et de son chagrin, il ne distingue pas entre Saül et Jonathan jusqu'à l'avant-dernier verset de l'oraison funèbre où il mentionne Jonathan et indique que son amour envers Jonathan était supérieur à l'amour d'une femme par sa profondeur et son dévouement. Alors Israël a perdu la bataille de Gilboa, mais se trouve à la veille de triomphes insoupçonnés. Nous sommes en l'an 1010 avant Jésus-Christ, et David est en quelque sorte au pied du trône. Il sait très bien que des initiatives rapides et décisives permettent généralement d'arriver à ses fins. Il pourrait prendre la tête de ses troupes, obtenir le soutien d'Israël et revendiquer la couronne. Il préfère cependant se tourner vers le Seigneur pour obtenir ses instructions et ses directives. On lit par exemple « David consulta l'Éternel en disant « Monterai-je dans une des villes de Juda ?» L'Éternel lui répondit « Monte ». David lui dit « Où monterai-je ? » Et l'Éternel répondit « À Hébron ». On peut lire ce petit passage-là, ce verset-là, c'est le verset 1 du chapitre 2. Alors le Seigneur dirige David vers Hébron, qui se trouve en Juda. Alors Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba, et il se trouve à une trentaine de kilomètres à l'est de Tsilag et à peu près autant au sud de Jérusalem. Ce mouvement marque la première étape dans l'accession de David au pouvoir suprême. Jusqu'à présent, Juda n'a été qu'une province d'Israël. C'est dorénavant un royaume. À Hébron, David est oint roi sur la maison de Juda. En prenant connaissance des actions courageuses des habitants de Jabès en Galaad, qui ont donné une sépulture décente à Saül et à ses fils, David leur envoie des messagers pour les féliciter. Ce geste est sans aucun doute destiné à dissiper toute crainte que les gens de cette ville ou d'autres anciens amis du roi Saül pouvaient éprouver devant la montée de David sur le trône. Au lieu de chercher à punir ceux qui ont fidèlement servi Saül, le nouveau roi est enclin à leur témoigner ses faveurs, à les combler de distinctions et d'honneurs, plutôt qu'à les contraindre à l'exil. 5 ans après la défaite devant les Philistins, Abner, commandant-chef de l'armée de Saül et cousin du défunt roi, proclame Ish-Boshet, fils de Saül, roi sur Israël, c'est-à-dire sur toutes les tribus, à l'exception de celle de Juda. C'est Abner qui avait présenté le jeune David à Saül après sa défaite sur Goliath. En proclamant Ish-Boshet, roi d'Israël, Abner sait qu'il agit à l'encontre de la volonté révélée de Dieu. En effet, l'Éternel a décrété que le trône passera de la maison de Saül à celle de David. On peut lire cette information-là au verset 9 du chapitre 3 et également au verset 19 du chapitre 3 également. Alors cet acte de défiance provoque une guerre civile entre Israël et Juda. Alors pendant qu'il règne à Hébron, David manifeste d'autres preuves de faiblesse, notamment son amour immodéré pour les femmes. Aux deux qu'il avait déjà prises, il en ajoute quatre autres. Toutes les six lui donnent des fils à Hébron. David n'avait pas le droit d'être polygame. Cette tolérance ne pouvait pas empêcher les maux auxquels la polygamie donne naissance de par sa nature même. La famille de David ne peut pas connaître l'unité, le délicieux sentiment d'harmonie qui procure tant de charme au foyer. Au contraire, les différentes branches de la maison, de la maisonnée, seront constamment tentées de s'ignorer ou de s'opposer. Il faudra donc toute la bonté et la sagesse de David pour consigner ses querelles dans des limites acceptables. En dépit de l'avertissement de Moïse que le roi ne doit pas multiplier le nombre des femmes, de ses femmes, Moïse avait mentionné ça dans Deutéronome chapitre 17, verset 17, David prendra encore d'autres femmes et concubines après son entrée en possession de Jérusalem. On a cette information-là aussi au verset 13 du chapitre 5. Sa famille sera une grande source de chagrin. Son épouse préférée se soulèvera contre lui. Chapitre 6, verset 20 à 22. Et sa fille Tamar sera violée par son demi-frère Amnon. Chapitre 13, verset 14. Et il sera ensuite assassiné par un autre demi-frère, Absalom, qui est le fils préféré de David. On a aussi cette information-là au verset 28 et 29 du chapitre 13. Alors Absalom lui ravira le trône avant d'être tué. Adonija, un autre de ses fils, tentera de se faire couronner roi, mais sera lui aussi mis à mort par un de ses demi-frères. Moïse avait prévenu Israël, « Votre péché vous atteindra. » C'est un verset dans Nombre 32, verset 23, « Votre péché vous atteindra. » Alors, à la mort d'Ishbosheth et d'Abner, le chef de l'armée, les Israélites démoralisés se soumettent à David. Les anciens reconnaissent que le dessein de Dieu s'accomplit en lui. Ils indiquent trois raisons pour leur choix. Le premier, il est leur parent. Le deuxième, il a une solide expérience de la guerre et du commandement. Troisièmement, l'Éternel lui a promis le royaume. Ils auraient dû commencer par cette dernière raison, parce que, bien entendu, elle est la plus importante de toutes. S'ils avaient été animés de considérations spirituelles en cherchant à plaire au Seigneur, ils se seraient contentés de savoir que c'était sa volonté révélée. Mais leurs préoccupations et leurs soucis n'étaient pas très spirituels, comme le montrent deux autres facteurs. Premièrement, ils mirent du temps pour entreprendre cette démarche, puisque Saül était mort depuis 7 ans et demi déjà, et il semble n'avoir pris la volonté de Dieu en compte que quand il n'y eut plus moyen de faire autrement. Après 7 ans et demi de règne sur Juda, David est oint roi sur les royaumes unis de Juda et d'Israël. Il fit alliance avec eux, à Hébron, devant l'Éternel. La grande promesse divine se réalise au moment où David, de la tribu de Juda, devient roi sur le royaume uni d'Israël. Et là, il faut reculer un petit peu dans le livre de la Genèse pour se rendre compte que, dans le fond, ici, on a un accomplissement de ce qui avait été prophétisé dans Genèse, au chapitre 49, les versets 8 à 10. Alors, on relit le chapitre Genèse 49, versets 8 à 10. « Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Silo, le Shiloh, le pacificateur, le prince de la paix, et que les peuples lui obéissent. » Alors, c'est vraiment un passage de Genèse qui mentionne que, dans le fond, Juda aura un roi. Et ici, on voit l'accomplissement. Alors, l'alliance que les anciens concluent avec David, dans le verset 3 du chapitre 5, a sans doute précisé les devoirs respectifs du roi et de ses sujets. Et aussi indiqué les promesses qui avaient été données à chacune des parties. Alors David choisit Jérusalem, la forteresse de Sion, pour résidence royale. Avec ses nombreuses collines, Jérusalem avait un passé riche. C'est là qu'Abraham rencontra le mystérieux Melchisédek, roi de Salem, et qui signifie « lieu de paix ». Jérusalem, Jérusalem signifie « lieu de paix », qui lui donna du pain et du vin, et le bénit avec ses paroles solennelles. On lit par exemple dans Genèse 14, au verset 19 et 20, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Là, sur le mont Morija, où la ville de Jérusalem est construite, Abraham avait emmené son fils Isaac pour l'offrir en sacrifice à l'Éternel, dans Genèse 22. Et avait prononcé des paroles inoubliables. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Verset 8 du chapitre 22 de Genèse. L'ancien nom de Salem fut changé en Jébus lors de la conquête sous Josué. À l'époque des juges, Jébus est décrit comme une ville d'étrangers où il n'y a point d'enfants d'Israël. À la tête d'un groupe d'hommes courageux, Joab s'empare de la ville réputée imprenable en empruntant le chemin du canal. On a toute cette affaire-là dans 1 Chronique, chapitre 11, verset 6. Apprenant que David est désormais roi sur tout Israël, les Philistins décident de l'attaquer avant qu'il ait eu le temps de consolider sa position. Ils s'avancent jusqu'à la vallée des Réphaïm. Alors que le danger est à sa porte, David prend le temps de consulter l'Éternel. Assuré du secours de Dieu, il livre bataille aux Philistins et remporte une victoire décisive. Les Philistins reviennent à l'assaut et, une fois de plus, avec les directives de l'Éternel, David les défait et les chasse du pays. Après, on a vraiment la description de l'Arche du Témoignage. Alors, l'Arche du Témoignage, ou Arche de l'Alliance, avait été construite selon les instructions détaillées que Dieu avait communiquées à Moïse au Sinaï. On a la description de cela dans Exode au chapitre 25, les versets 10 à 22. Alors, l'arche du témoignage avait pour couvercle le propitiatoire et était placé dans le Saint des Saints, la partie du tabernacle, le Saint des Saints. Donc, l'arche du témoignage était le mobilier essentiel du culte que Dieu avait prescrit dans l'Ancien Testament pour honorer son nom. L'arche précédait le peuple lors de son départ du Sinaï. Dieu désigna les Lévites comme seul homme autorisé à la porter. Elle contenait une copie complète de la loi de Moïse et l'arche fraya un chemin dans le Jourdain pour que les Israélites puissent rentrer dans le pays de Canaan, comme on peut le voir dans Josué au chapitre 3, les versets 6 et 8. Alors les sacrificateurs la portèrent en faisant le tour de Jéricho avant que les murs de la ville ne s'écroulent. Les Philistins s'en emparèrent, mais elle leur suscita tellement de malheur qu'ils la renvoyèrent aux Israélites. On la plaça finalement dans la maison d'Aminadab, où elle resta jusqu'à ce que David envisage de la faire transporter à Jérusalem. Cela faisait près de 70 ans depuis que l'arche avait séjourné dans le tabernacle. Avec la réunification des 12 tribus sous le sceptre de David, il fallait rendre le culte plus central, car l'arche représentait la présence de Dieu. Aucun lieu ne convenait mieux que Jérusalem, la capitale du royaume, la ville de David, pour accueillir l'arche du témoignage, l'arche de l'Alliance. Le roi prépara donc une tente pour l'abriter. De tragiques manques d'égards marquent la première tentative pour transporter l'arche à Jérusalem. On a ça dans le chapitre 6. Alors, visiblement plus soucieux de suivre l'exemple des Philistins que les recommandations expresses de Dieu, les Israélites placent l'arche sur un char neuf. Alors, Alors, le premier livre des Chroniques fournit un récit plus détaillé des dispositions prises par David et les sacrificateurs et conforme à la parole révélée de Dieu lors de la deuxième tentative. Alors, les fils de Lévite portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. L'arche est transportée dans la ville de David au milieu de beaucoup de réjouissances et d'actions de grâce. Le roi, rempli d'excitation spirituelle, dansait de toute sa force devant l'Éternel. On a ça dans le verset 14 du chapitre 6. Sa femme, Michal, fille du roi Saül, observe le comportement de David et le méprise dans son cœur. Alors la relation entre eux ne sera plus jamais la même. Alors établi à Jérusalem et jouissant du repos que l'Éternel lui donne devant tous ses ennemis, David éprouve un malaise grandissant à la pensée que sa demeure est plus importante que celle où est entreposée l'arche de Dieu. Il aspire à édifier une demeure permanente, un temple pour le Seigneur. Le prophète Nathan commence par encourager le roi à aller de l'avant dans la réalisation de son projet, mais la nuit suivante, l'Éternel révèle au prophète sa présomption et son erreur. Il le charge d'un message pour le roi. Ce n'est pas David qui bâtira une maison pour l'Éternel, mais l'Éternel qui en bâtira une pour David. Alors, ce, Ce message s'appuie sur un jeu de mots. En effet, la maison de Dieu est un édifice, tandis que celle de David désigne sa descendance. Alors David réagit à ce message par un respect et une humilité qui lui sont caractéristiques. Il quitte le palais royal et se rend dans la modeste tente qui abrite l'arche sacrée. Le roi David alla se présenter devant l'Éternel, comme on peut le lire dans le verset 18 du chapitre 7. Il vient juste de recevoir une nouvelle qui aurait flatté l'ego de n'importe quel homme, l'aurait rempli du sentiment de sa propre importance et incite à agir de façon arrogante à l'égard d'autrui. Mais lui, l'homme selon le cœur de Dieu, agit autrement. Humilié, rempli d'étonnement devant l'immense bonté de Dieu, il se rend dans le sanctuaire pour y épancher son cœur dans l'émerveillement, l'amour et la louange. Le règne de David s'affermit et s'étend. La soumission des Moabites et l'extension du royaume jusqu'à l'Euphrate au nord-est fait suite à l'assujettissement total des Philistins. La Syrie est vaincue, tout comme Amnon, Amalek et Édom. L'Éternel protégeait David partout où il allait, comme on le lit dans le verset 14 du chapitre 8. David se souvint alors de la promesse faite autrefois à Jonathan, son meilleur ami, et s'enquiert si un membre de sa famille est encore en vie. Il découvre Méphibosheth, un fils infirme de Jonathan. Le roi lui restitue les terres qui appartiennent à son grand-père Saül, puis il lui promet de l'accueillir pour toujours à sa table et d'en faire un invité d'honneur. Maintenant, on va regarder un petit peu la deuxième section du livre on parle du milieu du règne de David qui va du chapitre 10 aller jusqu'au chapitre 19. Alors, David et ses troupes remportent une victoire décisive sur les Syriens, mais le printemps suivant, le roi décide de ne pas accompagner son armée au combat. Alors, cette décision marque un tournant tragique dans la vie de cet homme qui craint Dieu. On peut dire que, globalement, les succès caractérisent le début d'une vie pourtant en dents de scie. La suite, elle, se caractérise davantage par les problèmes. Les choses commencent à aller gravement de travers. Le déclin spirituel de David débute lorsque le roi s'éloigne du chemin du devoir et qu'il décide de rester à Jérusalem pendant que ses hommes se battent et lui passe son temps dans l'oisiveté. Il aperçoit une jolie femme en train de se baigner. Il est tenté parce qu'il est attiré par sa propre convoitise. Et comme le dit Jacques, lorsque la convoitise a conçu, elle enfante le péché. Alors un péché entraîne l'autre. Après avoir pris la femme d'un autre homme, il ne tarde pas à prendre la vie de cet homme. Il est coupable d'adultère, de machination et de meurtre. Alors la colère de Dieu s'enflamme. Le prophète Nathan vient reprendre sévèrement le roi. Il faut cependant la remarquable parabole de Nathan, qu'on peut lire au chapitre 12, pour que David comprenne et soit amené à une conviction spirituelle de péché. Il se repent. Et le psaume 51 est vraiment une expression du cri de son cœur à ce moment-là. Même si le livre parle sans détour de la rétribution divine, il ne manque pas non plus de souligner la grâce étonnante de Dieu. L'Éternel est toujours prêt à pardonner, même des péchés horribles. Il arrive cependant que le péché, même pardonné, entraîne des conséquences désastreuses. David, bien entendu, n'est pas monsieur tout le monde. Il est roi d'Israël et ce rang lui confère des responsabilités. Plus la position occupée est élevée, plus les responsabilités qui s'y rattachent sont grandes. Les manquements appellent de sanctions appropriées. Ceux qui dirigent, comme ceux qui enseignent, seront jugés plus sévèrement, comme l'enseigne l'Épître de Jacques au chapitre 3, au verset 1. Toute la suite de l'histoire de David n'est que le récit des conséquences de son péché. L'enfant conçu dans cette union coupable, meurt. La vie familiale de David devient chaotique. L'homme qui est capable de gouverner sagement une nation n'est pas en mesure de diriger sa propre maison. Son fils Amnon commet un grave péché contre sa demi-sœur Tamar et David n'en est que très irrité. Il ne prend aucune mesure cependant et 2 ans plus tard, c'est Absalom qui est le vrai frère de Tamar et qui se trouve être le demi-frère d'Amnon, qui prend les choses en main, assassine Amnon et prend la fuite. La tragédie dans la vie de David ne se voit nulle part mieux que dans les chagrins que lui causèrent ses propres fils. Et il faut vraiment faire le lien et rattacher les malheurs qui lui arrivent avec la décision qu'il avait prise de coucher avec avec Bathsheba. Et bien entendu, c'est Absalom qui lui en fait boire, qu'on pourrait dire, la coupe du malheur jusqu'à la lie. Alors David se lamente sur le départ d'Absalom et soupire vers son retour au pays. Durant 3 années, pas une journée ne passe sans que le roi ne souffre de l'absence de son fils préféré. Joab, le chef de l'armée d'Israël et confident de son oncle David, décide de résoudre le problème et de ramener le fugitif auprès de son père. Comme Nathan, comme Nathan, Joab utilise un stratagème pour obliger David à se prononcer sur un cas imaginaire qui ressemble de près à celui d'Absalom. Tout en découvrant que Joab est derrière cette manœuvre, David accepte son raisonnement et ordonne le retour d'Absalom, mais sans lui permettre de paraître en sa présence. C'est une condition incompréhensible imposée au retour du fils. Le père pleure l'absence du fils, mais refuse de le voir. Il ne salue pas Absalom, ne lui laisse aucune occasion de se repentir et de se faire pardonner, aucun moyen de renouer la relation avec lui. L'ordre est formel, qu'il ne voit point ma face. Chapitre 14, verset 24. En agissant ainsi, David contribue probablement à la rébellion ultérieure d'Absalom. 2 années s'écoulent sans changement d'attitude. Absalom décide alors de prendre l'initiative. Joab intercède en sa faveur auprès de David. Absalom se présente devant le roi et les 2 hommes se réconcilient. Mais les 5 années d'éloignement ont laissé des traces sur ce fils de David. Nourrissait-il déjà à ce moment-là de l'orgueil et de l'ambition de devenir roi? Toujours est-il que les événements futurs allaient montrer que ses péchés remplissaient son cœur de façon incontrôlée. Alors, on va arrêter là pour aujourd'hui. Et on va terminer l'étude de 2 Samuel la semaine prochaine. Alors, que le Seigneur vous bénisse entre-temps.